Le chemin de la laine.
Maille numéro 4, le tri.
Si le pays du Roquefort est de fait le pays des brebis lacones, élevées pour leur lait, d'autres élevages en lien direct avec la production de laine existent sur le territoire, comme par exemple à la ferme Moer du Larzac, avec Anna Villam Dumonteil et Victor Le Signe, éleveur et éleveuse de chèvres angora.
On élève des chèvres angora pour la production de mohair, le poil en fait qu'elles ont sur le dos.
Anna nous parle des particularités de leur ferme.
Le mohair, c'est une fibre qui est très fine et qui nous sert à faire différents produits très chauds, très légers et très doux. Nous, on s'occupe de tout ce qui est élevage, tonte, tri, etc. Ensuite, on fait transformer dans une structure qui est à Castres. C'est sous forme d'une coopérative et ensuite, on récupère les produits et on les vend en vente directe. Il va y avoir différentes catégories de fils qui vont être fabriqués avec les poils des chèvres selon leur âge, notamment, pas que, mais notamment. Ça va des chevreaux jusqu'aux vieilles chèvres, parce qu'on garde le mohair de toutes les bêtes. Elles produisent toutes.
Dans l'épisode Maille numéro 2, nous étions avec Étienne Leblanc, tondeur professionnel. C'est également Étienne qui tond les chèvres angora de la ferme mohair du Larzac, avec quelques particularités.
Les chèvres angora donc, sont des chèvres, ce ne sont pas des brebis, c'est très différent. Elles produisent un fil très très long, il y a deux récoltes possibles dans l'année. Ouais. On tond à 6 mois d'écart sur le Larzac par exemple.
Pourquoi vous est-il nécessaire d'organiser plusieurs tondes par an pour les chèvres angora ?
Alors les chevreaux ici naissent au mois de mars-avril, donc on ne peut pas les tondre en même temps que les autres chèvres. On les tond en décalé la première fois, donc fin août. Et ils ont déjà des belles toisons et il faut les tondre justement. On sent même en général à la fin de l'été qu'ils ont un ralentissement de leur croissance parce qu'ils ont trop de mohair et la croissance reprend une fois qu'ils sont tondus. Et ensuite, ils reprennent le rythme avec toutes les autres chèvres, donc c'est-à-dire janvier et juillet pour les tontes. En fait, on a deux tondeurs depuis pas très longtemps, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un tondeur qui était vraiment spécialisé, qui avait même créé une méthode pour la tonte des chèvres angora spécifiquement. En fait, par rapport à la tonte de brebis, les chèvres angora, ça va être beaucoup plus long à tondre. Il faut faire très attention parce qu'elles sont beaucoup plus anguleuses et elles ont la peau très fine, donc on peut les couper facilement. Il peut aussi y avoir des fausses coupes, ça nous, on ne veut pas ça non plus.
C'est quoi une fausse coupe ?
Et ben le poil qui va être coupé trop court par exemple. Et donc si le poil est coupé trop court, il va pas passer dans les machines. Donc il faut que les poils soient bien coupés et puis surtout il faut pas blesser l'animal non plus quoi. Parce qu'on a quand même pas mal d'animaux à tondre, donc c'est quand même deux grosses journées quoi.
Et que ressentez-vous le jour de la tonte ? Qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Ben nous c'est des moments hyper forts parce que c'est vraiment la récolte de l'année quoi. C'est deux fois deux jours, donc c'est que quatre jours dans l'année. Du coup, c'est hyper important et c'est un gros chantier en plus. On a du monde qui vient, on a deux tondeurs et puis des gens qui viennent nous aider en général. Donc c'est assez important et puis on passe en plus chaque chèvre qu'on connaît quand même. On commence à bien les connaître toutes. Donc ça permet de les voir de plus près, de voir ce que donnent les toisons et de voir ce que donne notre récolte de l'année, quoi.
Comment s'organise un chantier de tonte ? Comment le préparez-vous ?
On ne va pas repailler juste avant, on évite de mettre des râteliers pour qu'elles ne mangent pas en hauteur juste avant la tonte, parce que sinon elles vont avoir plus de fibres dans les toisons. On va choisir une paille particulière, la paille de blé par exemple, ça se coincerait dans les toisons, donc on ne prend pas ça. On prend de la paille d'orge. Bon après, dans tous les cas, ça c'est aussi le travail qu'on fait au tri, de nettoyer grossièrement à la main.
Et le tri après, comment ça se passe ?
Alors le tri, on installe une table de tri ici dans le bâtiment. C'est une table avec des grilles en fait. Donc ce qui fait que quand on pose la toison dessus, déjà les petits poils qui sont trop courts, ils tombent. Les saletés tombent aussi. On secoue un peu chaque toison et ensuite on va l'observer. On va nettoyer grossièrement, comme je disais, donc les morceaux de paille, les fibres qui sont dedans. Et on sépare les morceaux des toisons selon les catégories. Donc en fait, on a des grands cartons qu'on dispose à côté de la table de tri et qui correspondent à chaque catégorie. Et on pèse aussi, mais ça c'est à la tonte, on pèse chaque toison pour savoir combien la chèvre en question a fait. Et puis ça, on a un répertoire pour garder cet historique-là aussi. Et après chaque tonte, on va passer à peu près 2-3 semaines à trier, donc à repasser toutes les toisons sur la table de tri. Donc c'est un travail qui est assez long, mais en même temps qui est hyper important et intéressant parce que ça nous permet, nous, de revoir vraiment en détail les toisons de chaque chèvre. Donc en général, on sait que par exemple des chevreaux, pour qui c'est la première ou la deuxième tonte, ils vont être tous en catégorie 1, donc c'est vraiment le plus fin. Après, selon l'âge, on va quand même regarder toute la toison. Donc il y a des parties du corps qui vont être plus épaisses, plus fortes que d'autres. Et donc les vieilles chèvres, par exemple, le fil est beaucoup plus fort que sur un chevreau ou une chèvre jeune. avec laquelle on va pouvoir faire plutôt du fil à tricoter, des vêtements qui vont se porter directement sur la peau. Et une chèvre d'âge moyen, elle peut avoir 3-4 catégories sur le dos qu'on doit séparer. Donc en fait, quand on trie le mohair juste après la tonte, on a 5 catégories de fil. Les 3 premières catégories, c'est vraiment le plus fin. Ensuite, on a le mohair qui va nous servir à faire des chaussettes. Après, on a le plaid et couverture. Et le plus fort, qui est même jarreux. Quand on parle de jarre, en fait, c'est un poil qui va être beaucoup plus fort au milieu de la toison. Elles vont nous permettre de faire justement des chaussettes très épaisses ou des charentaises. Alors après le tri, on amène l'ensemble de la récolte à Castres. Donc là, on est regroupé avec d'autres éleveurs pour la transformation du mohair. On a des fiches pour savoir combien on a apporté par éleveur. Et on va récupérer notre mohair à la fin au prorata de ce qu'on a ramené, donc en quantité et en qualité. Et en fait, cette entreprise à Castres, elle va centraliser les différentes étapes de transformation du mohair. Le mohair est d'abord lavé, ensuite il est cardé, donc ça va faire des espèces de grandes nappes, en fait ça permet d'aérer les fibres. Après c'est peigné, donc là ça commence à être ça fait du ruban en fait, donc un fil très, très épais, et ensuite c'est filé. Cette partie-là c'est dans le nord de l'Italie. Et après la teinture, ça va être en Vendée, et ça revient à Castres pour la confection.
Et est-ce que vous pouvez me parler de la gamme de produits finis que vous avez ?
Donc ça va des pelotes, on vend des pelotes simples. Après on va avoir pas mal de produits à porter, donc des pulls, des écharpes, des accessoires, bonnets, mitaines, gants.
Comment en êtes-vous arrivé à cette activité ? Quel est votre lien à la laine ?
Le lien à la laine, il est venu par les animaux. On est d'abord tombé amoureux des chèvres angora avant de tomber amoureux du mohair. Après notre rapport à la laine, il est très brut, je dirais, parce qu'il est directement lié aux animaux. Nous, on va plutôt avoir un œil de voir justement pour développer cette qualité de la fibre directement sur le dos de l'animal, quoi. Ce qu'on ne voit pas toujours en fait quand on achète une pelote, qu'il y a tout ce travail-là derrière. En tout cas, notre démarche, quand on s'est installé, il y avait aussi un côté militant là-dedans. C'est facile de consommer local au niveau de l'alimentation. Enfin, c'est facile, c'est faisable en tout cas. Mais par contre, au niveau du textile, de la laine, c'est hyper compliqué de s'habiller localement. Écologiquement parlant, le monde de la mode, c'est désastreux. Et du coup, on voulait aussi pouvoir travailler sur cet aspect-là et proposer des produits locaux, des produits en fibres naturelles, donc de meilleure qualité, qui soient beaucoup plus durables. Ça, c'était vraiment important pour nous aussi.
La ferme Mohair du Larzac suit ses fibres de la source au produit fini grâce à une filière certifiée Mohair de nos chèvres, regroupant une quarantaine d'éleveurs en France et garantissant un respect de l'animal, une transformation locale et des produits de qualité.
On a à cœur tous d'améliorer cette filière. C'est intéressant de ne pas faire juste les choses dans notre coin aussi, quoi.
C'était le chemin de la laine maille numéro 4, le tri. Anna Vimal Dumonteil, éleveuse de chèvres angora à la ferme Mohair du Larzac, nous parlait de son activité et des caractéristiques de la filière mohair.
Maille suivante, le cardage et l'aiguillotage.
Avec la filature Colbert. Les interviews et montages de la série Le chemin de la laine ont été réalisés par Alex Querel de Radio Larzac en partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses, avec la complicité de Roxane Willem-Jams, chargée de mission attractivité et développement sociétal, et Manon Lila, chargée de mission économie circulaire. Merci à Anna Vimal-Dumonteil pour son accueil et son témoignage.